retourne. Radio Vélo, avant dernière émission de l'année. Oui, il y en a jusqu'à la fin du mois de juin, rassurez-vous. Nous sommes le 15 juin, à mes côtés Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue également Jean.
Bonsoir à toutes et à tous.
Il est bien réglé en face de moi, Jean. Là, c'est bien, je crois qu'on a trouvé sa place dans l'émission. C'est mieux comme ça quand je l'ai Guillaume également est de retour.
Bonsoir tout le monde.
Après un petit tour du côté du Dauphiné. Et justement, on va y revenir un petit peu sur l'actualité de la semaine avec Nicolas, et oui, un autre Nicolas, l'actu du cyclisme sur Instagram. Vous êtes plus de 78 000 à le suivre.
C'est impressionnant.
C'est un gros stade de foot, hein. On a que le Stade de France qui fait mieux que Nicolas. En tout cas, voilà, et on l'avait déjà eu il y a quelques semaines pour parler de son compte Instagram très très fourni. Et il va être avec nous dans quelques secondes pour nous rappeler les faits marquants de ces derniers jours en matière de cyclisme. On appellera également Claire Bricogne de l'équipe 21 en duplex du Tour de Suisse pour prendre la température avec, je crois, un Français qui se débrouille pas trop mal.
Et oui.
Alors que l'an dernier, il flinguait sur la route du Sud, souvenez-vous-en. Il y en a tout pile.
Dans le port de Balès.
On va en reparler tout à l'heure. La Roue du Sud, justement, on la présentera avec le président organisateur Pierre Cobain qui sera avec nous. On aura la chronique matos avec Guillaume qui est allé espionner un petit peu tout le monde sur le Dauphiné. Et puis, on aura également Patrice Pion, le président organisateur créateur de la course Tour Savoie-Mont-Blanc. Ouais, le Tour des Pays de Savoie, c'est le Tour Savoie-Mont-Blanc, une grosse compétition.
Sacrée course par étapes.
On en parlait la semaine dernière avec Romain Campistrou, le champion Midi-Pyrénées. On aura aussi Jean qui nous fait des petits signes.
Oui, classification UCI 2-2.
Voilà,
donc, je regardais vite fait tout à l'heure les équipes avec les directeurs sportifs. J'ai vu un certain Richard Groenendaal, directeur sportif de l'équipe des Pays-Bas. J'étais assez surpris. Ancien champion du monde cyclocross. Donc voilà, ça me fait,
On en parlera tout à l'heure, mais là, on se tourne du côté de notre ami Nicolas, de l'actu du cyclisme sur Instagram. Nicolas, est-ce que tu es avec nous?
Et oui, je suis avec vous et merci, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui.
Salut Nico.
Et merci, et on avait envie de revenir avec toi sur les faits marquants de ces derniers jours en matière de cyclisme. Qu'est-ce que tu as retenu?
Eh ben, on va commencer par le Dauphiné qui avait débuté par un prologue dans la montée du Mont Chéri qui avait beaucoup fait parler, montée très dure, remportée par Alberto Contador qui montrait déjà dès le début qu'il était très fort. Une image peut-être qui a beaucoup le plus fait parler durant cette semaine du Dauphiné, avec la première étape, un sprint qui arrive à Saint-Vulbas, un sprint très houleux entre les coureurs de la Katusha et de la Cofidis pour préparer le sprint pour Nasser Bonny et Alexander Christophe, des coups d'épaule et de casse, notamment entre Christophe Laporte et Jacopo Guarnieri, qui avait beaucoup fait parler dans le milieu du cyclisme. Ensuite, on s'est dirigé après vers quelques étapes de transition, avec notamment un très beau numéro de Fabio Aru, mercredi dernier. Et pour la première étape de montagne à Vaujany, c'est Christopher Froome qui, comme à son habitude, a écrasé, comme il aime le faire, la première étape un peu escarpée. Le seul coureur qui a réussi à le suivre ce jour-là, c'était Richie Porte, mais il a pris le maillot jaune, puisqu'Alberto Contador est arrivé à 21 secondes, donc un écart assez conséquent pour s'emparer de la tunique jaune de leader. Et Christopher Froome qui montrait vraiment qu'il était très costaud à 3 semaines du Tour de France. L'étape reine, Cocorico, elle a été remportée par un Français, puisque c'est Thibaut Pinot qui s'est imposé au terme d'un sprint franco-français entre Romain Bardet et lui. Romain Bardet, qui ce jour-là d'ailleurs n'est pas passé loin de prendre la tunique jaune de leader. On y a tous cru, je pense, devant notre écran. Et enfin, pour le clôturer, une étape un peu plus calme lors du dernier jour, avec un magnifique raid solitaire de Stephen Cummins. Christopher Froome a résisté malgré une belle explication entre les favoris et il a conservé sa tunique jaune de leader. Donc au classement général final, le résultat des courses est victoire pour Christopher Froome qui, comme en 2013 et en 2015, s'impose. On remarque que ces deux années-là d'ailleurs, il avait remporté quelques semaines plus tard le Tour de France. On est tous très fiers de la deuxième place de Romain Bardet autour d'un magnifique Dauphiné pour l'équipe AG2R. Le podium est enfin complété par Daniel Martin pour la Etix Quickstep.
Ça, c'était donc pour le Dauphiné. Nicolas, on a suivi ça en image sur ton compte Instagram, l'actu cyclisme IG. Et depuis, c'est le Tour de Suisse.
Oui, le Tour de Suisse qui a débuté dimanche dernier avec un prologue dans les rues de Bar, remporté par un Suisse, ça ne s'invente pas, hein, Fabian Cancellara, qui avait à cœur pour sa dernière année de porter une dernière fois la tunique jaune de leader de ce Tour de Suisse. Mais ce début de Tour de Suisse, il a surtout été marqué par un homme. Il porte un maillot irisé de champion du monde. C'est Peter Sagan qui s'est imposé deux fois. La manière a été différente. La première fois au terme d'un sprint massif où il a dû se débrouiller presque seul, sans vraiment de coéquipier. Le deuxième jour, c'était hier. Il est sorti en costaud du peloton, seul encore une fois, avant de rattraper les hommes de tête et de les régler au sprint. Donc vraiment, il montrait encore une fois son panache. Et aujourd'hui, vous avez un peu parlé tout à l'heure, une très belle étape de deux montagnes remportée par un coureur de l'échappée matinale, Darwin Atapuma, qui a résisté pour seulement 4 secondes à Warren Barguil, qui était sorti comme une balle du groupe des favoris. Et un autre Français qui marche très bien sur ce Tour de Suisse, puisqu'il a pris la tunique de leader aujourd'hui pour seulement 0 secondes devant Wilco Kelderman, c'est Pierre Latour qui se classait 3e de l'étape et qui, grâce aux bonifications, je l'ai dit, se part de la tunique jaune de leader. Mais on s'est relativement neutralisé. Du côté des favoris, pas des écarts très conséquents pour cette première étape de montagne avec 3 cols à gravir aujourd'hui.
Eh bien, merci Nicolas pour ce résumé, hein, Julien.
Quel sacré résumé.
le jeune Nicolas qui fait ses premiers pas avec nous à la radio en petite chronique. Jean, c'est un petit peu ça que tu avais retenu toi aussi de ces derniers jours?
Oui, tout à fait. On n'a plus rien à ajouter.
Ouais, Guillaume, toi qui étais sur le Dauphiné, tu avais pris la température peut-être un peu?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que... Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'image d'Alberto Contador, surtout qui était très incisif. On en a parlé tout à l'heure avec Jean. C'est vraiment le seul qui a essayé de faire bouger les choses. Le dernier jour, vraiment, il attaquait. Après, malheureusement, il y avait un Froome qui était clairement au-dessus, en bosse. Contador a fait tout ce qu'il a pu, mais à un moment, les capacités physiques de Froome étaient quand même déjà un cran au-dessus. Mais voilà ce que j'en retiens après. De ce Dauphiné.
Nicolas, toi qui partages beaucoup de photos, est-ce qu'il y a des photos qui ont été où il y a eu plus de réactions que d'autres ces derniers jours?
Ah bah oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû. C'est la photo du sprint d'hier avec un tournant et un parcours final qui a beaucoup fait parler puisqu'il y avait un tournant à 150 mètres de la ligne, un tournant en angle droit, un vrai tournant. Et l'image de Danny Van Poppel qui est sur une roue parce qu'il tente de freiner sur le dernier virage. Je vous invite à aller la voir.
Bon, il a fait juste un stoppie comme un feu moto. Bon, il s'est bien rattrapé, mais il a bien géré quand même. Parce que...
à un mètre de la chute.
Ouais.
Ouais, t'écoutes, Nicolas.
Il a échappé la chute vraiment de très peu. Il faut voir la vidéo. On se demande comment il a fait pour ne pas tomber. Et bien sûr, encore une fois, les organisateurs et l'UCI, encore une fois, beaucoup dans le viseur ces derniers temps, ont beaucoup été critiqués par les coureurs et les observateurs.
D'accord. Oui, parce que je crois que l'UCI a voulu pas le mettre hors course, mais le rétrograder pour presque sprint dangereux. Alors que là, le problème, c'est que le pauvre, il est pour rien. C'est que je crois qu'il accroche un peu la roue de Sagan qui est devant. Enfin, puis mettre une arrivée avec à 150 mètres avant un virage angle droit. Heureusement que c'était pas un sprint massif, parce que sinon, je pense, ça aurait été catastrophique.
Ouais, ça promet en tout cas pour la suite de ce Tour de Suisse avec des Français qui brillent. C'est toujours une très bonne chose. Nicolas, avant de te remercier, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose qui t'a marqué ou que tu attends dans les prochains jours avec ton œil de passionné?
On a hâte de voir est-ce que Pierre Latour, avec ses jeunes épaules, est-ce que ses jeunes épaules vont justement supporter ce maillot leader? Est-ce qu'il va arriver à résister à la pression que les autres favoris vont lui imposer dans les prochains jours? On sait qu'autour dessus, c'est loin d'être terminé. Il y a encore de belles étapes de montagne, il y a un long chrono. Donc oui, moi, j'ai beaucoup suivre nos deux Frenchies, Warren Barguil et Pierre Latour, dans la fin de ce Dauphiné, de ce Tour de Suisse.
Bon, mais merci Nicolas, et on te retrouve donc comme d'habitude sur l'Instagram, l'actu cyclisme, c'est ça?
Alors, c'est pas l'actualité du cyclisme avec des underscores, enfin des tirés du 8 à la place des espaces, ça c'est sur Instagram. C'est vrai que sur Twitter, c'est l'actu cyclisme UG. J'ai dû changer malheureusement pour des questions de caractère, de nombre de caractères. Et donc sur Instagram, c'est l'actualité du cyclisme avec des tirés de 8 à la place des espaces.
Eh bien, on te remercie d'être passé avec nous dans Radio Vélo. Et puis tu reviens quand tu veux, Nicolas. Merci.
Merci, Nico.
De rien, avec plaisir.
À bientôt. À bientôt. C'était donc Nicolas.
Ouais, c'est un
passionné de cyclisme. Il a seulement 13 ans.
C'est largement bien résumé.
Incroyable.
C'est vrai que
c'est un futur grand.
Il pourrait remplacer certains.
Il va pouvoir nous remplacer, c'est bien. Hein.
Voilà. Après, c'est clair que c'est très bien résumé. Après, il y a des images un peu plus marquantes sur le Dauphiné. Ouais, moi j'ai vu certaines choses, voilà, comme la bagarre entre de nos deux Français, qui certes est propice, je dirais, à la victoire de.
Ça m'a beaucoup rappelé Mende, cette étape là où, bah ouais, où ils étaient au mano à mano et que Cummings avait surgi. Finalement, Cummings a surgi le lendemain au Dauphiné, tu vois.
Je comprends pas qu'il l'attaque aussi tôt que ça, à trois bornes de l'arrivée, qu'il l'attaque, alors que je suis sûr qu'il est, il peut coopérer et c'est jouable pour aller chercher le maillot. Et je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir sacrifié aussitôt à la fois cette victoire d'étape et ce maillot. Et je reste persuadé que derrière, je pense que dans Bansois-Jean, je reste persuadé que ça serait pas forcément rentré pour aller. Je pense que le maillot était jouable parce que l'équipe a roulé derrière, mais ils sont pas rentrés aussi vite qu'ils le faisaient auparavant. Et je pense qu'il y avait un petit peu le feu à la baraque quand même.
Oui, tout à fait, parce que Romain Bardet, il a fait une grosse erreur, parce que ils auraient pu collaborer et ils auraient collaboré. Bon, sachant comment au niveau de tactique entre les coureurs.
C'est dommage. Félix, c'est dommage.
Ouais. Allez, on refait la page Dauphiné. On reparle du Tour de Suisse dont on a commencé à parler tout à l'heure avec le jeune Nicolas de l'Actu Cyclisme sur Instagram. Et là, nous retrouvons une Suissesse, je sais pas si ça se dit. notre amie Claire, de Claire Bricogne de l'équipe 21. Claire, est-ce que tu nous entends?
Très bien. Il fait pas très beau en Suisse, donc amenez-moi le soleil, s'il vous plaît. Mais sinon, tout va bien.
Salut Claire, on le gardera ici, le soleil, je te rassure.
On se bat en ce moment pour l'avoir, on se bat, parce que c'est pas évident d'avoir... Donc Claire, tu as le plaisir de suivre ce Tour de Suisse depuis le départ, c'est ça?
Oui, je suis même arrivée 2 jours avant le départ pour pouvoir suivre la présentation des équipes, etc. Et donc je reste jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la fin.
D'accord, donc Tour de Suisse qu'on suit sur l'équipe 21, c'est bien ça?
Exactement, c'est tous les jours en direct à partir de 16h et vous avez des rediffusions le soir pour ceux qui ont manqué les highlights de la journée à partir de 21h. Donc ça, c'est vraiment, on pense à ceux qui travaillent, voilà.
Donc, le Tour de Suisse en gratuit, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, là, parce que la TNT, ben, à peu près tout le monde l'a, hein, si j'ai bien compris maintenant. Du coup...
Sauf en Picardie.
Peut-être, je sais pas.
Premier à l'avoir en Picardie.
C'était les premiers, voilà, c'est les zones test.
Oui, quoi.
Du coup, ouais, c'est quand même une sacrée évolution, une sacrée volonté. Claire, j'imagine, tu t'en réjouis de, bien évidemment, de ce partenariat, mais c'est quand même une sacrée évolution, parce que d'habitude, c'était la course par excellence qu'on voyait jamais en clair, le Tour de Suisse. Enfin, en clair, en gratuit.
Merci pour le jeu de mots évité. C'est la deuxième année, hein, que l'équipe leur transmet, parce que l'année dernière, c'était déjà le cas. Mais oui, évidemment que c'est une sacrée course, c'est une très belle évolution. Peut-être, en tout cas, ça fait partie de l'offre que la chaîne propose cette année. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de pouvoir montrer ça avant le Tour de France, clairement, quoi. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que les Français se montrent. C'est vraiment un très très beau parcours. Par rapport au Dauphiné, on compare souvent cette course avec le Dauphiné. Il y a énormément de dénivelé. Il n'y a pas une étape sans col. Il y a énormément de d'ascensions hors catégorie, première catégorie. Demain, ça va encore donner, même si c'est une première catégorie au final. Enfin, honnêtement, c'est un très beau Tour de Suisse. C'est vraiment difficile et je pense que ça peut être une bonne préparation, par exemple, pour Warren Barguil qui est ici.
Voilà, Warren Barguil qui est ce soir quatrième. Il y a 14 coureurs qui se tiennent en moins d'une minute au classement général, avec donc, bah, on s'en réjouissait tout à l'heure, quelqu'un qu'on a vu vraiment très à son aise il y a tout pile un an sur la route du Sud où il suivait Contador et Quintana. Le leader ce soir, Claire, si je ne me trompe pas, c'est Pierre-Roger Latour, le Français d'AG2R La Mondiale.
Exactement. Alors, je crois qu'il est à égalité de temps avec Kelderman. Donc, ça,
exactement.
C'est pas vérifié, mais en tout cas, voilà, lui, il a le maillot jaune. Il est seul à avoir le maillot jaune sur les épaules. Et c'est drôle parce que moi, j'étais juste à côté de lui après l'arrivée, et en fait, il s'en est pas rendu compte tout de suite. On l'a prévenu après. Enfin, il a pas été mis au courant tout de suite, et c'était vraiment marrant de voir ça. Mais en plus, Pierre Latour, vous avez parlé de la route du Sud, mais c'était vraiment quelqu'un qui rigole tout le temps. Enfin, qui il est très sérieux dans son entraînement, mais c'est en même temps quelqu'un, quand on le croise, il a le sourire, il nous dit bonjour, il est tout le temps avenant. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est agréable à croiser, quoi. Donc c'est une jolie récompense pour lui. Il a que 22 ans. Voilà, c'est vraiment très sympa de l'avoir en leader. Et surtout qu'à la base, il n'était pas forcément venu ici pour jouer le général. Je suis pas sûre qu'il jouera le général jusqu'à dimanche, mais en tout cas, voilà, c'est pour lui, c'est une sacrée récompense. Et vous l'avez dit, en plus, on l'avait vraiment vu l'année dernière à la même période. Donc voilà, ça c'est bien pour lui, pour ça.
C'est plutôt positif. Je crois qu'on avait parlé avec lui après sa belle route du Sud l'année dernière. Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants, Claire, de ce début de Tour de Suisse? On parlait tout à l'heure de certaines images spectaculaires. On parlait aussi de Sagan qui avait déjà la Grinta. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou des petits à côté que tu as envie de partager avec nous?
Alors, pour revenir sur Sagan, il fait le show tout le temps. Il a fait le show sur la ligne. Là, il a fait un sprint avec quelqu'un qui était à côté de lui. Enfin, on est quand même en montée, hors catégorie. Enfin, voilà. C'est le show Sagan ici, vraiment dans tous les sens du terme. Et il se prend pas au sérieux. Il a pas la grosse tête avec le public Sagan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément ici. Évidemment, suivez Warren Barguil parce que il va jouer le général. Il y a Guérin Thomas aussi qui est là, qui lui jouera le général aussi pour la préparation du Tour de France.
Deuxième l'an dernier, voilà. Guérin Thomas.
Exactement, il avait été battu de très peu de temps. Puis c'était Thibaut Pinot hein, qui avait fait un super numéro ici. Enfin, c'est une course que les Français aiment bien, donc ça c'est intéressant. Après, encore une fois, ça va être un très très beau parcours et c'est vraiment très intéressant. Il y a un chrono samedi qui pourrait redistribuer les cartes. Mais voilà, ce que je peux vous dire en dehors de ça, c'est que vraiment, en étant peut-être un peu loin de la France, ici c'est avec les Français, c'est vraiment agréable, quoi, parce qu'ils sont très accessibles et toujours. Enfin, de toute façon, ce sont deux équipes qui sont généralement très accessibles, mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment agréable.
Donc en plus de Barguil et de Pierre-Roger Latour, on retrouve également, je crois, Kenny Ellison, Hubert Dupont hein, sur cette épreuve parmi les Français les plus en vue.
Je crois que Kenny a abandonné aujourd'hui, ça s'est vérifié, je ne suis pas certaine de l'information, mais je crois qu'il a chuté en tout cas aujourd'hui. Il y a eu pas mal de chutes du côté de l'équipe FDJ, donc peut-être des chutes sérieuses, ça s'est surveillé. Moi je ne veux pas trop en parler parce que je n'ai pas d'informations précises sur ça. En tout cas, c'est pour l'équipe FDJ aujourd'hui, ça n'a pas été marrant. Voilà, donc on espère que ça ira mieux sur ces prochains jours ensuite, et surtout que les coureurs vont se remettre. J'ai oublié votre question, Nicolas, c'est terrible. C'était quoi votre question?
Dupont
qui s'est donc montré, voilà, aujourd'hui, et ouais, qui jouait le général à la base, mais qui avait perdu du temps dans les premières étapes, et qui donc va certainement aller essayer d'aller chercher une victoire, je pense.
Bon, on fait un tour de table là. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière victoire française sur le Tour de Suisse?
Oh non, c'est beaucoup trop simple ça.
Ah bon?
Non, le premier qui ne la sort pas tout de suite, là, ça va pas aller. Là, mais tu parles du général ou du général,
Claire.
Ah ouais, bah, ok, bon, allez, je rends mon tablier.
1997, Christophe Agnoluto. Ça, c'était la grosse côte quand même, devant Oscar Camenzin. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Et il y a seulement deux Français, apparemment, qui, d'après mes sources, hein, qui ont remporté le Tour de Suisse. Christophe Agnoluto et la troisième édition en 1935 avait été remportée par Gaspard Rinaldi. Ça te dit quelque chose, Jean?
C'est avant-guerre.
La avant-guerre, c'était Marseillais. Claire, c'est ça, non? T'avais pas cette fiche, hein? Non? Claire, est-ce que tu avais nous? Elle n'est plus là.
Si, si.
Oui, je suis là.
Non. Ah oui. Non, je ne sais pas, non, ce n'est pas des statistiques qui reviennent trop à l'antenne, ça. On n'en parle pas trop de Rinaldi, là, j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'il avait gagné des très belles courses. Je vois le Grand Prix de la Victoire à Nice, le Grand Prix de Cannes, ouais, coureur marseillais. Bref, c'était l'anecdote. Qu'est-ce que, autour de la table, non,
qu'est-ce qu'il prévoit comme temps pour la fin de semaine, Claire, là-haut?
De la pluie. En fait, aujourd'hui, il prévoyait de la pluie. On a eu sur une bonne partie de l'étape. Ça a été un peu plus sec à l'arrivée. Il fait vraiment pas beau depuis le début de ce Tour de Suisse. C'est d'ailleurs une des données que les coureurs ont en tête, parce qu'à chaque fois que je les interviewe, c'est une des choses qui revient. Guérin Thomas, c'est une des choses qui dit le plus dans ses interviews. Warren Barguil aussi. Mais Warren, il me dit que ça ne dérange pas trop la pluie. Voilà.
Bon, mais à suivre. En tout cas, on va croiser les doigts pour Warren et puis pour Pierre Roger. Claire, on te remercie d'être passé à nous faire un petit coucou. On retrouve des interviews demain. Il y a déjà des choses dans la boîte ou c'est secret défense?
peux rien vous dire, mais il y aura des choses très sympathiques en boîte. Suivez, parce qu'on a vraiment, les coureurs sont accessibles et les grands sont accessibles ici.
C'est ce qui fait la différence d'autres courses quand même, comme la Route du Sud quand même, ou c'est propice. Enfin, c'est
sur l'accessibilité.
Ouais.
Mais moi j'ai jamais fait la Route du Sud. Non, c'est pas ça. C'est que, en tout cas, ici, ils sont très accessibles. Après, même en début de saison, on avait fait des trucs sympathiques et tout. Non, en général, ils sont super accessibles. Mais là, j'en profite pour dire que ça sera vraiment dans le live et que blabla. Voilà. Mais vraiment, j'ai eu aucune difficulté, moi, à avoir un entretien avec Sagan en début de semaine, voilà, avec Warren Barguil notamment. Voilà, j'ai eu aucune difficulté à faire ça.
Bon, mais Claire, on te remercie d'être passé nous faire un petit coucou dans Radio
Suisse.
Bon tour de Suisse. Nous, on va profiter de la Route du Sud qui est pas loin, du coup, demain. Et puis, il faudra que tu viennes la découvrir.
On allume l'équipe
21. Ouais, on allume l'équipe 21 juste après l'arrivée de la Route du Sud qui arrive tôt, donc c'est bon. À très bientôt, Claire, dans Radio Vélo.
Ciao.
Merci.
Bonne émission, salut.
Merci. C'était donc Claire Bricogne de l'équipe 21 en direct de Radio Vélo.
Pour info, je suis sur le Twitter FDJ et Pierre-Henri, le cuisinier, qui a chuté.
Oui.
Et apparemment, quand même, traumatisme dorso-lombaire. Bon, sans complications neurologiques ni troubles de conscience, mais bon, voilà, une grosse chute.
De 20 coureurs.
Ouais, 20 coureurs, donc voilà, c'est.
Donc, quand même... un autre coureur. D'une autre équipe, un étranger.
Dans le micro, là.
Un étranger qui a chuté aussi, c'est vraiment plus grave.
Ouais, Carrel.
C'est dans les 20 premiers kilomètres, juste au moment où l'échappée s'est dessinée.
Ouais, Carrel, Nick, ils ont tous les deux, oui. Ils avaient tous les deux été évacués en hélicoptère.
En hélicoptère. Donc c'était assez grave, comme a dit le commentateur de l'équipe 21.
Bon, sur tout ça, on enchaîne les coups de fil, on continuera tout à l'heure, on va avoir Pierre Cobain dans quelques instants, le président organisateur de la Route du Sud, le Tour de Suisse avec les Français à l'honneur, bah oui, ça fait plaisir, il a fallu aller chercher dans les petites fiches, hein, parce que c'est vrai que moi je me disais avant qu'il parte sur le Tour de Suisse, que vu le plateau qu'il y avait sur le Dauphiné, parce que même des habitués du Tour de Suisse sont venus hein, sur le Dauphiné, je parle de Sapinot notamment, qui est régulièrement là-bas. Froome, il y a quelques années, allait également un petit peu sur le Tour de Suisse. Bon, Contador, pas trop. Mais voilà, chacun sa préparation en général. Il y a Rui Costafaria qui va tout le temps. Il avait gagné 3 fois. Enfin, c'est différent. C'est différent. Julien, t'irais où, toi?
Dauphiné,
bien sûr. Ouais.
Non, enfin, après, c'est vrai qu'il y a des conditions météo qui sont difficiles là-bas en Suisse.
Guillaume, je suis sûr qu'il irait en Suisse, lui.
En tant que cycliste, oui, non, ça grimpe trop.
Ça grimpe trop.
Moi, du coup, il y a des pentes.
T'as les étapes qu'il y a ou quoi là-bas?
Ah, non, c'est vrai que c'est difficile, mais chacun sa préparation. Ça peut payer pour toi le Tour de Suisse, Jean, quand même?
Oui, bien sûr, puisque les anciens, je vais me remémorer plus tard, ouais. Dans les années 60, on voyait quand même Jacques Anquetil aller préparer le Tour de France sur. La Romandie, le Tour de Romandie,
oui.
Et le Tour de Suisse derrière.
Et le Tour de Suisse derrière, oui. Ouais. Donc c'est bien évidemment une préparation qui marche aussi, Jacques.
Oui.
On se retrouve.
C'est pas radio.
Pop.
Rock.
Sport. Entre sessions acoustiques et interviews, retrouvez un groupe ou un artiste du Nord-Pas-de-Calais pour une session live inédite. It's the Nord Acoustic Show. Bye, c'est ta radio. L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne. Inch'Allah, Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Radio Vélo en mode route du Sud. Oui, demain, arrivé à Bessières, première étape à côté de chez nous. C'est pas loin, Jean. Bah ouais, qu'est-ce qu'il faut nettoyer la voiture? Qu'est-ce qu'il y a?
Tous les ans, il y a l'omelette géante de Bessières.
L'omelette géante, on voit la gastronomie Radio Vélo. Bien évidemment, avec notre ami Jean. On va avoir dans quelques instants Pierre Cobain, s'il nous entend, il va pas tarder à décrocher le téléphone, le président organisateur de la Route du Sud. Route du Sud qu'on suit maintenant sur Eurosport. Oui, l'équipe 21 qui a le Tour de Suisse, Eurosport qui a la Route du Sud, ça n'arrête plus les diffusions de télé. Décidément, avec une Route du Sud où il y aura 5 étapes en plus cette année, avec notamment un grand passage albigeois, ce qui promet beaucoup. Tu t'étais noté quelque chose, Jean?
Oui, le chrono. Qui revient à...
Vendredi, non?
Le chrono, c'est samedi.
Ah.
Non, vendredi, ah, pardon.
C'est ce qui me
autant
semblait.
Pour moi, dans l'après-midi. Très belle épreuve à suivre. Si on veut voir tous les coureurs, là, c'est le meilleur moment. Et puis là, ils sont moins stressés que sur le Tour de France.
Ben, monsieur, rien de mieux que d'avoir le président organisateur de cette route du Sud de la Dépêche du Midi, à l'honneur de Pierre Cobain. Bonsoir Pierre, comment ça va?
Bonsoir, ben ça va très très bien.
Alors, à quelques minutes, quelques heures de ce départ, comment se passent les derniers instants? Je suppose que ça va être très 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 pris ou tout est calé déjà et on t'attend que le départ arrive?
Rien n'est jamais calé, Julien. Bonsoir, bonsoir à tous. Rien n'est jamais calé, c'est voilà, c'est quelques heures avant le départ, donc quelques petits soucis de dernière minute à régler, mais tout se présente plutôt bien.
Bonjour Pierre, c'est Nicolas. Peut-être une question par rapport au changement qu'il y a par rapport à l'an dernier, avec notamment le parcours hein, qui évolue chaque année, et puis le gros travail qu'il y aura du côté d'Albi, je crois, Pierre.
Oui, alors le parcours qui essaie de caler maintenant à notre nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec le département de l'Hérault qui nous rejoint comme partenaire et donc le grand départ justement du département de l'Hérault à Saint-Pons-de-Thomières et effectivement Nicolas, donc on renoue un petit peu avec la tradition, on n'avait pas fait de contre-la-montre depuis 2010, voilà, on remet ça au goût du jour avec un joli contre-la-montre vendredi après-midi avec un départ et une arrivée depuis le circuit automobile d'Albi le Séquestre.
Ouais, si je ne me trompe pas, Pierre, c'était le même circuit à quelque chose près du Championnat de France d'avenir, à quelque chose près?
Oui, tout à fait, oui, à quelques mètres près.
Ouais, donc un parcours très sélectif où on peut avoir des écarts qui soient faits sur cette étape de contre-la-montre.
Oui, tout à fait, c'est un avis que je partage, oui, parce que la côte de Carlus, notamment, c'est... Ouais. Et voilà, très difficile, technique, oui, on peut avoir des écarts conséquents, effectivement.
Ouais, et puis on a la demi-étape du matin, Saint-Pierre-de-Trébizy-Albi aussi, qui est très, très casse-pâte, même si le final sur Albi, ça roule, mais partant de Saint-Pierre-de-Trébizy, dans la vallée, il faut chaque fois aller grimper ces côtes assez raides, avant de redescendre sur Albi, on peut avoir aussi une échappée qui parte, et pourquoi pas, déjà, de cette demi-étape-là, avoir pas mal de spectacle.
Oui. Une étape difficile, effectivement, le matin. Et puis, 94 kilomètres, donc ça va rouler très, très vite. Et effectivement, avec ce que les locaux appellent le petit Tourmalet, voilà, très, très difficile, tout à fait.
Après, donc, on retrouve le samedi, ben, le samedi comme de coutume, hein, l'étape de montagne, avec le Tourmalet et l'arrivée donc à Val d'Azun Courraduc, il y aura le col de Bordère si je me trompe pas un petit peu avant, 190 km, ça va piquer dans les jambes aussi.
Ouais, une étape digne du Tour de France, un départ de Saint-Gaudens qui va nous recevoir pour la 28e fois. 184 km 900, pour pas dire 185, avec la traversée d'une région magnifique qui s'appelle les Baronnies dans le département des Hautes-Pyrénées. Mais très très difficile avec le col de Coupe, le Courret d'Ascq avant de revenir sur Bagnères de Bigorre, hein, le col du Tourmalet et à la sortie de Pierrefitte-Nestalas, donc le col des Bordères, effectivement, avec un passage à plus de 12% sur un kilomètre environ et la montée à Courraduc, oui, très difficile.
Et enfin, on termine par une étape un peu inédite, hein, un peu l'étape du dimanche, où on va avoir un circuit à parcourir à plusieurs reprises. Cette idée, elle a mûri comment elle a mûri cette idée, Pierre?
Moi, j'ai ça en tête depuis quelques années. C'est un peu à la demande de mes amis coureurs et des groupes sportifs. À quelques jours des championnats nationaux, ils souhaitaient avoir voilà une étape en circuit et
pour reproduire un petit peu le circuit schéma type de ouais. Championnat de France.
Oui, tout à fait, d'un championnat de France ou d'un championnat national. Et voilà. Et puis mes amis du Gers, là, les élus du conseil départemental du Gers, on avait ça en tête depuis quelque temps. Et donc on a monté un truc qui fait un circuit qui fait 19 600 km à parcourir 8 fois, mais très difficile aussi.
Oui, on avait parcouru un championnat, un contre-la-montre par équipe. Il est difficile avec ces deux côtes à l'opposé, oui. 155 km.
Ouais, c'est deux longues lignes droites dans le sens des vallées descendantes et puis on recoupe les coteaux au niveau de
l'Oubertin
et ça va être très difficile, oui.
Et puis si la chaleur s'invite ce jour-là aussi, là-bas où ça cogne bien, il pourrait y avoir pas mal de surprises aussi, quoi.
On espère, et puis après c'est la réception toujours que l'on a dans le département du Gers, donc ça devrait faire... Il y a des animations autour dès le samedi, donc ça va faire un petit peu, Julien, un petit peu à l'image des courses en Bretagne. Ça devrait faire du beau spectacle.
Nouveauté cette année que je vais quand même signaler et mettre un petit peu à l'honneur, notamment demain, je crois qu'il y a une partie des coureurs cadets du club de Villemur qui vont faire les 25 derniers kilomètres. Et le samedi, il y a la montée aussi, par engagement pour les cadets, la montée finale de l'étape de samedi où les cadets pourront s'exprimer sur la montée finale. C'est inédit, ça aussi.
Oui, tout à fait. On a, voilà, avec mes amis de l'organisation, on a en tête de lancer la route du Sud cadet, d'en faire une épreuve que l'on veut pérenniser. Donc, on se lance cette année ça va être grosso modo la montée sèche de Couraduc avec un départ d'Arens-Marsous et l'arrivée donc sur les installations des coureurs professionnels. Et le vainqueur se verra remettre un maillot de leader de la route du Sud par Daniel Manjas et moi-même sur le podium protocolaire.
Peut-être, on a été assez complet, mais peut-être une question par rapport au plateau qui on imagine bouge toujours dans les dernières heures avant la compétition. Est-ce qu'il y a quelques infos, quelques indiscrétions qui sont arrivées à vos oreilles récemment, Pierre, peut-être ?
Non, pas vraiment de gros changements sur ce que vous avez dû lire dans la presse. Donc, Bonairo qui est là, hein. Quintana.
Avec son frère
Pardon ?
Avec son frère.
Avec son frère, tout à fait, oui. Avec son frère d'ailleurs, qui est là. Et puis, ce qui se fait de mieux, un sprinter français, Brian Coquart, qui est là, qui a remporté deux étapes chez nous l'an dernier. Arnaud Desmarres, qui a triomphé cette année sur Milan-San Remo. Je voulais souligner aussi la présence de Lilian Calmejane de la formation Direct Énergie.
On a beaucoup de régionaux.
Beaucoup de régionaux, oui, Pierre.
Juju Louvet sera là.
Pouyès, Paché.
Stéphane Pouyès, Quentin Paché. Et Lilian, surtout, j'ai rencontré ses parents avant-hier. Lilian, il est du séquestre, donc
tout à fait.
Vendredi après-midi, il sera chez lui. Et voilà, aux côtés donc chez Direct Énergie de Sylvain Chavanel, de Thomas Vaucler, Adrien Petit, un beau plateau.
On aura également de l'équipe portugaise Guillaume Dalmeida aussi, qui sera là aussi.
Oui, tout à fait.
Il va y avoir beaucoup de supporters de la région pour encourager nos coureurs.
Oui,
et puis sans oublier aussi, ça c'est voilà un petit scoop, sans oublier. De la formation Pierrick Fédrigo. Pierrick Fédrigo qui aura son quart de supporter sur la dernière étape à Clermont-Pouillès. 55 ou 60 personnes voilà qui se sont organisées pour venir. Donc voilà. De la convivialité et de la fête, parce que le vélo, c'est ça aussi. Et voilà, dans ce département du Gers qui nous reçoit toujours très, très bien.
C'est vrai que je me souviens encore de cette étape qu'avait gagné Arnaud Desmarres dans ce petit village.
À Saint-Michel,
J'étais impressionné par le monde qu'il y avait ce jour-là. Il faisait très chaud, mais il y avait un monde dans ce petit village. C'était, je crois que ça avait quadruplé, je sais pas, mais c'était impressionnant le monde qu'il y avait ce jour-là.
Oui. Alors là, la dernière étape à Clermont-Pouillès, pour parler un peu de l'histoire de la route du Sud, c'est le plus petit village à nous recevoir. Il y a 150 habitants, je crois, à Clermont-Pouillès.
D'accord, mais en tout cas, ça promet une belle fête. Un mot enfin sur la commune la plus proche du studio Radio Vélo. Jamais la Route du Sud n'est passée aussi proche quasiment du studio Radio Vélo. L'arrivée à Bessières. Bessières, comment la Route du Sud s'y est retrouvée, Pierre ?
Bessières, c'est Xavier Bernard, c'est Julien Almanta, il le sait aussi. Voilà, c'est les amis du vélo qui m'ont permis de rencontrer monsieur le maire de Bessières, Jean-Luc Rességuier. C'est Denis Gonzalez aussi, le président du comité départemental de Haute-Garonne. Voilà, c'est la famille du vélo qui m'ont permis de rencontrer cet élu. Et voilà, et je crois qu'on va faire une belle fête autour de Bessières.
D'accord, bon, très bien, on va suivre ça. Demain, on ira y faire un petit tour et voir les jeunes aussi qui courent, oui. Du coup, juste avant, c'est évidemment la fête, la Route du Sud qui est la course que tous les sudistes attendent et de toute la grande région, la nouvelle région que la Route du Sud actualise,
sera,
du coup.
Qui sera diffusée par Eurosport, faut pas l'oublier, parce que ça aussi, c'est hyper important pour notre image du Sud.
Voilà, ça sera...
Deux heures de direct et puis un gros système de caméras embarquées, etc. Un petit peu ce que vous avez pu voir sur le Dauphiné libéré. Et puis je voulais souligner que la 40e s'appellera donc la 40e Route du Sud Francis Aurillac.
Tout à fait.
Oui, bien sûr, dédié à Francis, cette Route du Sud, sans qui elle ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, on a fait le tour, Julien, je crois. Tu voulais rajouter.
Oui, Pierre, non. Puis est-ce que tu as, Pierre, des choses à rajouter qu'on a oubliées? On en a beaucoup parlé, mais est-ce que tu as des choses un message?
Un petit coucou peut-être à toute l'équipe de bénévoles de la Route du Sud, bien sûr. Ouais.
Bien sûr, sans qui rien n'est possible, hein, sans 130 à 140 personnes à mes côtés. Moi, je suis que le chef d'orchestre d'un orchestre qui fonctionne bien, quoi. C'est la passion du vélo. Et puis rajouter que au niveau pilote invité, il y a des anciens coureurs professionnels qui nous rejoignent, pilote invité, mais aussi on a Jean-Marc Marino que vous connaissez bien, qui nous rejoint comme régulateur cette année. Voilà, c'est la famille du vélo, la passion, et voilà, et on fait tout pour que ça se passe très bien.
Ben merci Pierre, on vous souhaite une bonne Route du Sud, si possible sous le soleil, et puis on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci Pierre Cobain, le président organisateur de la Route du Sud, prêt à s'élancer. Du coup, ça sera demain du côté de l'Hérault, oui, parce que la Route du Sud...
Saint-Pons-d'Automière, demain le départ, pour rallier Bessières, 165 km.
S'impose sur la grande région, maintenant Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, région dont connaîtra le nouveau nom demain, a priori, du moins le résultat du fameux sondage plus ou moins régulé, lui aussi de la région. C'est parti, la Route du Sud, c'est vrai qu'au niveau plateau, ça fait quelques années maintenant, quand je vois le plateau, j'ai le sourire, parce que je me dis quand même, ils doivent être sacrément satisfaits, les organisateurs, à chaque fois, ça fait maintenant 3-4 ans où ça se régale.
Ouais, ça se régale. Après, tout va ensemble, hein. Le plateau, la télé qui est là, une course qui avait le mérite, hein, tout à fait, de prendre de l'ampleur. Faut pas oublier qu'elle emprunte chaque année les plus beaux cols pyrénéens, avant le fameux Tour de France. C'était tout le mal qu'on pouvait lui souhaiter. Donc c'est vrai que Pierre a repris les rênes un petit peu cette Route du Sud, et chaque année, bon, on voit un plateau qui prend de l'ampleur, et avec encore cette année beaucoup beaucoup de régionaux, je répète.
Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos petits favoris sur le Twitter @radiovelo30m, vos favoris pour cette Route du Sud, où la tête d'affiche de star numéro 1 sera Nairo Quintana. Mais sur les parcours accidenté, notamment d'Albi, avec le chrono aussi qui peut jouer dans la balance, Julien.
Ouais, il y a le chrono, l'étape du matin.
Nairo est loin d'avoir gagné cette Route du Sud. Hein.
Ouais, c'est. Mais il y a beaucoup de temps à perdre sur l'étape du vendredi. Là, il y a beaucoup de temps à perdre.
On va suivre tout ça, bien évidemment, à faire la chronique matos. Et après, on appellera le papa du Tour Savoie-Mont-Blanc. Ce sera Patrice Pion qui sera avec nous dans quelques instants. Mais parlons un petit peu des pédaliers, des casques, des cadres, de tout ce que vous voulez, des t-shirts avec Guillaume. Money, get back. Guillaume est de retour après un petit séjour du côté du Dauphiné. Comment ça s'est passé, le Dauphiné, Guillaume?
Bien, il faisait beau. C'est déjà ça.
Il faisait beau, c'est assez rare pour être signalé. Maintenant, on va le dire, bientôt, j'ai vécu un jour de soleil.
Non, sur le Dauphiné, c'est quand même assez régulier qu'il fasse. Bah, en général, sur la France, au mois de juin, en général, il fait beau.
Du coup, armé de ton appareil photo, mais pas que, c'était quoi le but? Quel genre de choses on observe du côté d'une telle course?
Ben, en général, on observe, c'est quelques semaines avant le Tour de France, beaucoup de nouveaux matériels. Cette année, exception, pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un peu la déception de ce Dauphiné 2016. Parce que c'est vrai que les marques apparemment attendent vraiment le dernier moment pour présenter les nouveautés. Sincèrement, la seule chose que j'ai vue de nouvelle, ce sont les chaussures de Dan Martin. Alors, je sais pas si les gens l'ont vu. Il avait
Dan Martin, on le voit souvent à l'écran, en tout cas. Hein.
Voilà. Trop vite.
Ouais, faut voir encore ses chaussures. Après, même moi, j'ai eu du mal à les voir. Il a de nouvelles chaussures Mavic. Alors, c'est le seul à les porter. Il travaille avec Mavic depuis 3 ans sur ce projet. Donc, j'ai demandé à Mavic, ils ont pas voulu m'en dire plus. Apparemment, ça serait des chaussures ils auraient travaillé sur des projets similaires à Salomon en chaussures de ski. Ça serait vraiment une comme un chausson, et dessus on rajoute une coque carbone, donc là où il y aurait la cale, etc. Donc c'est vraiment allégé au maximum. Ça serait plus un chausson, c'est pas néoprène, mais vraiment un chausson souple, et dessus il y a une coque carbone vraiment très très légère. Donc on en saura en plus, je pense, dans quelques mois, mais pour l'instant il y avait que Dan Martin qui les portait et qui les cachait, parce que je lui ai demandé de s'arrêter à un moment pour faire des photos des chaussures et il a pas voulu. Donc c'est
quand même pas évident d'avoir un objet sur soi, d'être une personnalité publique et de devoir le cacher quand même. Mais bon.
Ouais, après c'est contractuel, puis c'est le jeu, hein, donc voilà, c'est vraiment la seule nouveauté que j'ai vue un peu sur le Dauphiné. Après voilà, il y a le vélo de Thibaut Pinot, on va dire, avec des couleurs spécifiques, ou le vélo d'Alberto Contador. Mais voilà, c'est pas vraiment des nouveautés, c'est juste là pour faire parler de...
Est-ce qu'on a vu par rapport à ces fameux pédaliers Shimano, est-ce que...
Non, l'équipe FDJ avait quelques pédaliers Shimano, le pédalier capteur de puissance, mais pareil, là j'ai essayé de questionner Julien Pinot, etc., mais là pareil...
Fermé.
Ouais, ils ont rien voulu dire, donc...
Est-ce que d'esthétique, t'as vu, t'as rien mis de particulier?
Non, rien de particulier. Voilà, vraiment, c'est comme un pédalier traditionnel, on voit juste un...
Juste le capteur.
Voilà, c'est même pas le capteur, je pense, c'est juste l'émetteur qui transmet les informations. Après, par contre, si à la FDJ, ils ont peu... En tout cas, Thibaut Pinot et quelques autres courants ont abandonné le fameux compteur SRM. Ils sont de Garmin, maintenant.
D'accord.
Alors, sachant que l'équipe FDJ, elle n'est pas sponsorisée par SRM, donc ils devaient s'acheter les compteurs SRM,
oui,
qui coûtaient 700 euros, je crois, quelque chose comme ça. Apparemment, ils préfèrent en plus la personnalisation du Garmin. Donc voilà, ils utilisent le Garmin, et puis je pense qu'ils vont, dès le Tour de France, ou en tout cas dès la présentation officielle, utiliser tous le capteur de puissance Shimano. Donc, ils n'ont plus aucun intérêt à utiliser un compteur SRM. Donc,
après, l'avantage du Garmin par rapport au SRM, c'est qu'on peut le jumeler à plus ou moins un téléphone et recevoir des infos.
Il y a de ça aussi. Alors, est-ce qu'ils s'en servent pour ça? Non, parce que je ne pense pas, parce que le coureur n'a pas le droit d'avoir de téléphone. Par contre, on peut, j'en ai parlé, je crois, il n'y a pas longtemps, on peut mettre une application, remplacer, on va dire, les fameux morceaux de papier qu'on avait sur les potences où il y a marqué kilomètre 18, il y a une bosse, ou, etc. Ça, maintenant, on peut le rentrer dans le Garmin. Donc, peut-être que ça peut servir aussi à ça. Donc, mais voilà, c'est les seules nouveautés vraiment que j'ai vues sur le Dauphiné. Cette année, c'est assez difficile d'avoir des nouveautés. Comme je disais, il y a la présentation Shimano le 29 juin. Donc, jusque-là, aucune information.
Après, silencio stampa, hein, c'est ça, silence,
voilà,
radio.
Hein. Voilà, silence total. Il n'y a même pas une petite fuite, rien du tout. L'UCI, par contre, qui a pas changé son fusil d'épaule, mais qui, au niveau des freins à disque, donc toujours interdit chez les pros pour l'instant, oui, mais c'est qu'il autorise sur les épreuves de masse, c'est-à-dire tout ce qui est cyclo-sportive, à partir du 1er juin ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est peut-être quelques organisateurs qui ont râlé et autres, parce que, y a beaucoup de cyclos qui avaient déjà acheté des vélos à freins à disque, qui s'étaient peut-être engagés aussi, et qui pouvaient pas participer. Donc là, l'UCI a revu un peu ce règlement, et donc c'est interdit chez les pros, mais autorisé sur les épreuves de masse. Et est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Il y a deux marques qui ont présenté des vélos équipés de freins à disque, uniquement de freins à disque d'ailleurs, des vélos endurance. Il y a BMC, avec le BMC Road Machine, et le Canyon Endurance CF SLX. Donc voilà, c'est deux vélos qui se concurrencent, orientés cyclosportifs, équipés de freins à disque. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais voilà, au moins tous ceux qui, en tout cas, qui ont acheté un vélo à freins à disque pourront participer aux cyclosportives. C'est déjà ça.
Après, est-ce que toi, qui étais sur le Dauphiné là-bas, tu as eu vent un peu de ce qui se passe à l'UCI avec ces fameux moteurs électriques, etc.
Non, j'ai vu les commissaires UCI donc, contrôler les vélos, ça ouais, avec les tablettes. Mais après, rien de plus. J'ai vu le reportage de Stade 2 donc dimanche avec le journaliste Thierry Villedary. Je ne voudrais pas mal prononcer son nom. Il était aussi au Dauphiné. Mais après, moi, j'en sais pas plus. Il n'y a pas plus d'écho que ça. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc voilà.
Ouais, c'est les principales informations qu'il faut retenir, bien évidemment, de ce que tu as vu là-bas au Dauphiné.
Voilà. Maintenant, après les prochaines grosses infos, je pense que ça sera Shimano, la présentation officielle juste avant le Tour de France. Ça sera vraiment le prochain gros truc à attendre, sauf si une marque nous sort quelque chose de derrière les fagots d'ici là. Mais voilà, maintenant, on va attendre fin juin, puis après le Tour de France, peut-être quelques nouveautés. Il y a toujours quelques nouveautés sur le Tour.
On va continuer ce tour, tour du monde cycliste avec le président organisateur du Tour Savoie-Mont-Blanc. Avant cela, Jean, Julien, peut-être quelques infos de votre côté, notamment sur les sélections des jeunes. Vous me disiez, il y a pas mal de trucs. Jean, t'as des notes de partout, me dis pas non de la tête quand même.
Ouais, il y avait ce week-end, il y avait à Cassette-Sarrazin, organisé par le club Cassette-Sarrazin, superbe organisation de l'équipe d'Alain Bilès. Il y avait les championnats régionaux, donc des écoles de vélo qui servaient de support pour finaliser la sélection pour le trophée de France. Ça équivaut, c'est le championnat de France, on appelle ça le trophée de France des écoles de vélo qui se déroulera à Rochefort le 29, 30, 31, fin de mois de juin. Et donc début juillet, jusqu'au 1er juillet, c'est ça. La fin du mois, là. Et donc, on connaît maintenant tous les sélectionnés, puisqu'il y a 12 concurrents, il y a deux pupilles, deux Benjamin, deux minimes,
filles
et garçons. Voilà, donc, il y aura une délégation qui se rejoint, qui partira donc à Rochefort disputer ce Trophée de France. Je rappelle que l'an dernier, nos Midi Pyrénées avaient terminé à une très très belle troisième place à Saint-Étienne-lès-Remiremont, au pays de Steve Chenel. Donc là, retour cette année, pareil, à Rochefort pour essayer de rester sur le podium. Donc, on s'est bien régalé ce week-end. Donc voilà. Après, une info particulière, Jean, qu'est-ce que tu avais de particulier, toi?
Particulier sur le championnat, là?
Non, d'autres infos.
Non. Sur la région, je parlais de ce temps. Bon, il y avait les deux cyclosportives le samedi.
Il y avait la Marion Cligné.
La Marion Cligné, où sur la tenace, on retrouve la Pandori qui a gagné, de Amber. Et Solana, deuxième et troisième Miranda de Villemur. La Rotarienne, 90 km, un dénommé Garcia Guillaume qui gagne devant De Geil de Villemur et Thomas Collin de Balma. Voilà.
Merci Jean et Julien pour cette chronique régionale. Et un petit tour du côté de la Savoie maintenant, le Tour de Savoie-Mont-Blanc avec Patrice Pion, le créateur et directeur de l'épreuve. Patrice, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour et merci d'être en direct avec nous dans Radio Vélo, de prendre quelques minutes pour nous présenter, nous donner quelques renseignements sur votre épreuve qui commence demain. On imagine que c'est le timing est très chargé pour un organisateur à la veille du départ.
Oui, il est très chargé, mais aussi à la veille du départ, ben, tout doit être prêt. Hein, donc nous, on est prêts. Il ne manque plus que le soleil. Bon, pour aujourd'hui, on a eu quand même des accalmies. On sait qu'en France, en ce moment, c'est pas très chouette. Particulièrement en montagne, nous on a l'habitude de faire des cols assez hauts, donc 1500 mètres à 1800 mètres. Du coup, c'est toujours vite compliqué quand ce mauvais temps est ici. Mais voilà, on est prêt, hein, on est prêt pour ces 5 étapes, 4 jours. Voilà, on a les équipes qui sont toutes arrivées cet après-midi. Donc, on n'a plus qu'à donner le départ demain matin de Saint-Michel-de-Maurienne. Allô ?
Oui, on vous écoute, pardon, Patrice.
Ouais. Et du coup, voilà, on part Saint-Michel-de-Maurienne, on va rejoindre une grande étape, hein, 145 km, très, très vallonné. On va arriver sur Cruseil, aux alentours de 16h30. Ensuite, on va commencer à rentrer dans les hostilités, parce que le vendredi, on aura une étape entre Barbie et La Fécla, entièrement aux alentours de Chambéry Métropole, avec 118 km et un dénivelé de 3700 mètres. Donc là, c'est vraiment une étape pour les grimpeurs. Ce sera la seule arrivée en altitude. Ensuite, le samedi, on aura une première étape qui part à 10h45, 120 km pour rejoindre la Maurienne en passant par Aussoy, donc une petite ascension sur Aussoy, et on arrivera à Modane. Et le soir, on aura un contre-la-montre qui est assez difficile, de 7 km, avec trois petites ascensions d'un kilomètre, et voilà, puis beaucoup de dénivelé, puisque les 500 derniers mètres sont à peu près à 15%, entre Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Martin-de-la-Porte. Et puis, le dernier jour, on aura l'étape, on va dire, reine de notre épreuve, dimanche 19, entre Moutier, qui est en parenthèse, et la ville de Cluses. Et là, on aura une vraie étape digne d'un Tour de France, hein, puisqu'on partira sur Albertville, on montera l'ascension sur les Saisies, on redescendra, on fera l'ascension du col des Aravis, on redescendra du côté du Grand Bornand, on montera le col de la Colombière, ensuite on enchaînera derrière le col de Rome pour arriver à la Cluses, et là c'est pareil, c'est une étape avec 3200 mètres de dénivelé. Voilà, donc on peut dire que c'est la place aux grimpeurs pour ce week-end savoyard.
Bonsoir, je regardais le profil en même temps que vous le citiez. C'est faut pas arriver là-bas pour se préparer, il faut arriver en fait prêt, quoi.
Alors il faut être prêt, hein, sur ce type d'épreuve. On fait partie des épreuves les plus dures un peu du calendrier international, qui est ouvert à cette catégorie continentale et DN1, DN2. Voilà, les coureurs qui viennent là, ils viennent pas là par hasard, hein, il faut qu'ils soient prêts. Bon, déjà demain, par exemple, on a Vincent Lavenu de G2R La Mondiale qui vient suivre l'étape avec nous pour voir un peu les coureurs, le comportement. Puis tous les jours, on a des appels des équipes qui veulent les résultats. Les équipes Pro Tour sont très, très friands des coureurs qui marchent sur ce type d'étape, parce que du coup, c'est des coureurs qui, dans l'avenir, on le voit avec Pinot qui a gagné chez nous, avec Bardet, Van Garderen. On a eu des coureurs, Talansky, voilà, c'est des noms qu'on retrouve dans les années futures, après dans les courses internationales. Et du coup, effectivement, il faut pas arriver au Tour de Savoie pour s'échauffer ou s'entraîner. Il faut arriver au Tour de Savoie il faut être en forme, quoi.
En tout cas, le parcours, une fois encore, est somptueux. Est-ce que c'est au niveau du plateau? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez eu un petit peu le plateau que vous souhaitiez, Patrice?
Oui. Alors, on souhaiterait toujours un peu plus. On est toujours envieux. Quand on est organisateur, on est toujours envieux d'avoir toujours tout de suite. Il faut être patient. Nous, c'est la 18e édition. L'année dernière, on a eu la première édition avec une équipe continentale. Il y a eu Fortuneo. Cette année, du moins l'année dernière, c'était pas Fortuneo, mais c'était Bretagne Séchée. Cette année, ils sont à nouveau là. Et cette année, on a Direct Énergie qui viennent prendre le départ. Donc, du coup, ça permet aussi d'avoir un niveau sportif beaucoup plus élevé. Et puis, ça donne aussi envie aux jeunes coureurs de se montrer, de faire voir qu'ils sont à la hauteur. Et voilà, on a des équipes comme BMC, Rabobank, des équipes comme Roubaix.
Ouais, l'Auto-Soudal aussi.
On a l'Auto, on a Burgos, on a, voilà. Il y a 9 équipes continentales. Donc, pour nous, c'est important. Pour nous, c'est vraiment bien, quoi. Donc, on est assez fiers. Bon, on est comme tous les clubs en France. On est tous des bénévoles. Donc, on est fiers de ce qu'on fait. Et puis, voilà. Après, il faut que les collectivités soient conscientes qu'on a des vraies difficultés à organiser des courses sur la voie publique. Mais, quand ils auront tous compris ça, je pense que le vélo revivra des beaux jours, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, quoi.
C'est un sacré problème, ça. Et je sais pas quand est-ce s'il sera réglé un jour, mais c'est un sacré problème. Alors, par rapport, en revenant à la course, est-ce que par rapport au parcours, qui va prendre le maillot sur les deux premiers jours, il a des chances de le garder jusqu'à la fin, ou c'est vraiment la dernière étape qui est très costaud, quoi?
Je pense que c'est quand même à l'usure, hein. Je pense que le podium va se dessiner quand même dès le premier jour, on va dire sur les 10-12 meilleurs du classement général le vendredi. Après, il faut savoir que samedi, c'est une journée à double tranchant avec deux demi-étapes. Et puis après, celui qui a pas gardé de jus, il peut vite tout perdre le dimanche. On a eu des années, hein, l'année où Van Garderen il gagne dans le dernier kilomètre du dernier col, du dernier jour, quoi. Voilà, il était à 13 secondes au général et avec les bonifications, il va gagner pour 2 ou 3 secondes, quoi. Aujourd'hui, ça se joue à très peu. Bon, quand on tombe sur des coureurs qui sont des vrais grimpeurs, on peut s'attendre à avoir de la bagarre jusqu'au bout. On voit par exemple l'équipe américaine d'Axel Merckx hein, qui vient avec un coureur Costa là, qui est un pur grimpeur. Voilà, c'est quelqu'un qui quand il se met à embrayer dans les bosses, voilà, il se coule tout le peloton et après, ben, on attend s'il y a des jeunes qui sont capables de suivre. Mais ensuite, il y a des anciens hein, comme il y a Brice Foyu qui sera au départ. Donc du coup, c'est quand même des pointures. Il y a l'équipe Fortuneo, ils sont là. Ils ont pas finalisé la sélection de l'équipe qui va aller au Tour de France, donc il y a quelques coureurs qui ont des enjeux, quoi. Donc du coup, tout ça, ça remet en cause ben, la victoire jusqu'au bout, quoi. Tout le monde se bat. Voilà, les Perrichons qui sont dans le peloton, ils font du bien aux jeunes parce qu'ils ont le métier, mais ils font du mal sur le vélo, quoi, parce qu'ils font souffrir les autres.
Hein. Et voilà. Peut-être Patrice Pion, avant de terminer, vous nous avez parlé d'une victoire de Vanguard de Rennes. Est-ce qu'il y a des éditions plus que d'autres qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a certaines anecdotes ou images que vous aimez rappeler parmi toutes ces belles aventures que vous avez vécues avec votre épreuve?
Ben, chaque année, on remet ça. Et franchement, ouais, l'arrivée, la victoire de Vanguard de Rennes, ça a été une très, très belle victoire. Parce que d'abord, on était sur un plateau où, à la mi-course, on avait des endroits... qui étaient des zones que jamais une course de vélo avait pris hein, sur le plateau des Glières. On a fait une arrivée sur le plateau des Glières et quand on voit que la victoire elle se joue sur quelques secondes de bonification, ben du coup c'est vraiment pour moi en tant qu'organisateur, en tant qu'éducateur dans un club, ça me fait frémir quoi. Je trouve que c'est très beau. Et puis on a eu fait des arrivées au col du Mont-Cenis ou il y a très longtemps au col du Glandon. Voilà, il y a pas grand monde qui peut dire, j'ai organisé une course à étapes et j'ai fini à 2000 mètres d'altitude avec tous les risques qu'on peut prendre dans l'organisation, hein. À 2000 mètres d'altitude en Savoie au mois de juin, on est quand même, on fasse, quoi. Si se met à neiger, c'est vite tout bloqué, quoi. Donc voilà, c'est ces moments-là qu'on vit, quand on voit la réussite. Alors, on a des années où on a annulé des étapes, hein, parce que, sur le col du petit Saint-Bernard, une année on n'a pas pu passer, les coureurs ont été obligés de monter dans les voitures. Mais voilà, ça c'est tous ces moments-là qu'on se rappelle et qu'on se fait vraiment plaisir, quoi. Tant que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'accident et que voilà. C'est ça les bons moments, quoi.
Bon, alors on vous demande pas qu'est-ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite que ça se passe bien avec une très belle course. Quelque chose à rajouter, Patrice, avant de vous remercier?
Non, je remercie tous les auditeurs de nous suivre, de nous écouter, de nous encourager. Et puis pour nous, ben ouais, c'est très important. Pour moi, comme à tous les clubs en France qui organisent des courses de vélo, je pense qu'on a vraiment besoin de soutien. Et contrairement aux usagers de la route qui ne bientôt plus les vélos, il faut vraiment qu'on soit soutenu. Donc merci de nous aider, les radios, toute la communication qu'on peut avoir sur ça, parce que pour nous, c'est important, quoi.
Bon, mais merci
à tous les auditeurs.
Merci Patrice Pion d'être passé dans Radio Vélo. On vous souhaite un beau tour de Savoie-Mont-Blanc. À très bientôt dans Radio Vélo.
Merci bien. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.
Merci. Et nous allons donc refermer cette émission. Jean, tu voulais rajouter quelque chose avant?
Oui, j'ai complètement oublié Mazamé, le défi du Nord.
Il y avait le samedi la montée du Pic de Nord.
Oui, c'est ça. Où c'est Campistrou qui gagne devant Castelnarnaud et de Carvalho. Après le lendemain, nous avions
les fameuses boucles du Tarn, qui est probablement très réputée.
Avec un Grec qui gagne, Ioannis Nikolaos.
Ioannidis du VSC Hierrois.
Voilà, devant encore Castelnarnaud. Et le petit Meyer qui donne de bonnes.
De bons signes pour la suite.
Voilà, bon, tout à fait ça.
On remercie bien évidemment tous nos auditeurs, le podcast dispo dès la fin de soirée. Guillaume, merci
Jean,
Julien,
Jean
ferme la boutique, oui, au lit. Wow. C'est fini là. Demain, il y a Route du Sud du côté de Bessières, pas loin. Et on se retrouve bien évidemment encore la semaine prochaine, juste avant les championnats de France. Voilà, après, ça sera la présentation du Tour de France et ce sera encore une belle année de boucler avec la team Radio Vélo. Merci à tous. Julien, à très bientôt.
Bonne soirée à tous. Hein.
Ciao, ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.
Retourne-la. Et pourquoi pas faire le tour de la Terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Car la retourne. Car la retourne. Retourne-la. La 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 la. La 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 la.
la vie, la